Vous écoutez, on lit pour vous.
Conseil de famille. Un texte de Marie-Hélène Pau, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité. Malgré le succès des CPE et des congés parentaux, les Québécoises ne font pas autant d'enfants qu'elles le souhaiteraient, avance Sophie Mathieu, sociologue à l'Institut Vanier de la famille à Ottawa. Vous analysez l'effet des politiques familiales québécoises dans « Égalité, fécondité et maternité », presse de l'Université de Montréal, paru en novembre dernier. Quel est votre principal constat? La première politique, instaurée en 1988, avait pour objectif avoué d'augmenter le taux de natalité avec des « bébés bonus » qui ont grimpé jusqu'à 8 000 $ à la venue du troisième enfant, l'équivalent de 17 500 $ en 2023. Pourtant, cette mesure a eu moins d'effet sur l'indice de fécondité que celle adoptée en 1997, qui visait surtout la conciliation emploi-famille avec la création des centres de la petite enfance, CPE, notamment. Dans la décennie suivante, l'indice de fécondité a monté à 1,73 enfants par femme. Ça ne s'était pas vu depuis les années 70. Comment expliquer ce phénomène? Les politiques familiales qui dématernalisent les soins aux petits sont celles qui permettent le plus aux femmes de réaliser leur désir d'enfant sans sacrifier ce à quoi la plupart tiennent mordicus, être actives professionnellement. Dématernaliser veut dire partager la responsabilité de l'éducation, d'abord avec l'autre parent, le plus souvent un papa, ensuite avec d'autres proches, puis avec l'État qui doit instaurer des mesures de soutien aux familles. Sans ces conditions, beaucoup de mères abandonnent leur projet d'agrandir la famille, craignant de perdre à nouveau des occasions d'emploi. En Italie et en Espagne, par exemple, où les services de garde sont quasi inexistants et où la division des tâches est encore stéréotypée, les indices de fécondité sont parmi les plus faibles de l'Union européenne. Malgré l'aide des CPE, les Québécoises auraient en moyenne 0,5 enfants de moins qu'elles le voudraient, selon un sondage cité dans votre livre. Et l'indice de fécondité baisse depuis environ 15 ans. Qu'est-ce qui cloche? D'abord, le problème criant d'accès aux services de garde, dénoncé d'ailleurs par les 30 000 personnes qui suivent le mouvement « Ma place au travail » sur les réseaux sociaux. Cette pénurie dissuade des femmes d'avoir un autre petit. Moi-même, je n'en aurais probablement pas eu un troisième sans une place garantie en CPE. Ensuite, il faut allonger le congé de paternité, celui non transférable à la mère, qui dure de 3 à 5 semaines en ce moment, selon qu'on choisit le régime de base ou particulier. C'est LA clé pour rendre plus égalitaire la charge des soins. En Islande, où l'indice de fécondité s'élève à 1,72, les parents ont un congé de 6 mois chacun, avec seulement 6 semaines transférables entre les deux. On voit des papas partout avec leur bébé, et ça envoie un message très fort d'acceptabilité sociale. Sentez-vous une volonté politique en ce sens au Québec? L'égalité y est une valeur bien ancrée. Ainsi, depuis janvier 2021, une mesure encourage les hommes à profiter du congé parental transférable que les mères prennent au complet d'habitude, dans plus de 60% des cas. Lorsqu'un père récupère de 6 à 8 semaines de ce congé, en plus de son congé de paternité, la famille a droit à des semaines supplémentaires de prestations. Cette mesure, qui a du succès, contribue à rééquilibrer l'investissement des deux parents dans la sphère familiale. Le ministère de la Famille fait aussi des efforts pour ouvrir de nouvelles places en CPE. À terme, ça pourrait faire remonter l'indice de fécondité. À condition que ce ne soit pas toujours les mères qui parlent avec l'éducatrice et prennent congé quand les petits sont malades. C'était « Conseil de famille », un texte de Marie-Hélène Prou, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité.
Donner du sens au temps qui reste. Un texte de Dominique Anglade, paru le 12 décembre 2023 dans la presse. Dans les mois qui ont suivi son départ de la vie politique, Dominique Anglade a pris du recul. Une pause qui lui a permis de réfléchir à ce qu'elle souhaitait faire des années qui viennent. Trouver un sens pour continuer d'avoir de l'impact. Une étape toute particulièrement importante pour les femmes, souligne-t-elle. Arrêter. Pas pour de bon, mais pour reprendre son souffle, pour respirer, pour réfléchir. Arrêter. Pour calmer une intensité que seul un véritable arrêt autorise. Je l'ai fait souvent et sous différentes formes. Mais chaque fois, je me suis dit, vite, il faut penser à la prochaine promotion. Vite, il faut tomber enceinte, une fois, deux fois, trois fois. Vite, courir après le prochain défi, la prochaine étape de la vie. La vitesse te donne ce sentiment que tu mords dans la vie à pleines dents. On enfile les activités, un événement n'attend pas l'autre. Vite, la vie est courte. L'horaire est chargé, chaque case est occupée, organisée, structurée. Et ça ne rend pas malheureux pour autant, puisqu'au contraire, ce sont ces horaires et tous ces projets qui rythment nos vies. Pourtant, si je me suis arrêté si souvent, c'est que, quelque part, j'étais consciente que la vie ne pouvait pas être constamment vécue à vitesse grand V. Parce que je reconnaissais peut-être une certaine vérité qui interpelle dans les paroles de nos cow-boys « Chacun son tour, joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. » Mais mon dernier arrêt était étonnamment différent. Différent parce que je ne courais plus après la prochaine promotion. Différent parce que j'ai eu mes enfants et que je me retrouve dans un tout nouveau contexte que j'apprivoise et que j'aime bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Arrêter, donc. Le temps de faire une marche à 22 heures avec mon ado de 16 ans, le temps de commencer une discussion à 23h15 avec ma fille de 15 ans, le temps de ne rien faire, sinon plein de câlins avec le bébé de la famille. Le temps de lire, de réfléchir, de reprendre contact, de s'émerveiller encore et encore devant des paysages, de passer 6 heures à un brunch avec plein de super filles. Le temps d'être seul. Mais pourquoi cet arrêt m'a-t-il semblé si différent? Et je fais humblement le constat que c'est sans doute la sérénité d'une femme qui approche la cinquantaine. Je me suis surprise, il y a un an, à dire que je réfléchissais à ce que je voulais faire, pour le temps qui reste. Qu'avais-je dit? C'était la première fois de ma vie que je m'entendais prononcer ces mots, le temps qui reste. Comme si j'apprivoisais enfin ma propre mortalité. Je suis moi-même restée surprise. À 49 ans, il y a encore du temps, mais il y en a moins qu'il y en avait. Les enfants qui vieillissent, des proches qui nous quittent, le rappellent qu'on n'est pas immortel, justement. Ce n'est pas une crise, mais une réflexion réelle et profonde sur ce qu'on veut que soient nos prochaines années. La vie m'a fait courir pour tout, mais suis-je obligé de courir autant? En ai-je envie? Pour l'instant, je découvre qu'il y a une phase pour tout et une question à laquelle répondre. Quel sens donner à ta vie pour le temps qu'il te reste? Et puis je me rends compte que je suis loin d'être seul à avoir ces réflexions, même si chacun a une réalité qui lui est propre. Nombreuses sont celles qui se demandent si, après avoir tout désiré, tout voulu, parfois pas toujours, tout obtenu, on veut se concentrer sur ce qui a un sens profond. Et pour une femme, cet âge est singulièrement important. Parce que la famille a été fondée, parce que les postes convoités ont été obtenus ou pas, mais que la vraie question se résume davantage ainsi. Que faire de cette expérience accumulée et en quelque sorte de cette liberté retrouvée? Cette liberté de temps. Les enfants n'exigent plus autant dans le quotidien et les tâches, même s'ils demandent quand même une présence quand ça compte. Et puis, s'ajoute à ce contexte lié en bonne partie à l'âge la fameuse question encore trop taboue de la ménopause. Notre réalité physique se transforme et exige aussi une réelle adaptation pour passer à travers petits ou gros changements, c'est selon, mais aucune femme n'y échappe. Et pour certaines, des conséquences personnelles et professionnelles non triviales apparaissent au moment même où la femme a une expérience et une expertise redoutables pour contribuer à la société. Alors, un recul pour mieux comprendre ce qui arrive à notre corps, comprendre ce qui arrive à notre tête. Ce recul peut prendre de multiples formes, un changement dans notre état d'esprit, un week-end en solitaire, une pause du travail quand nous pouvons nous le permettre, des vacances pour réfléchir. Pour la première fois de ma vie, j'ai la chance de ne pas vivre sous le dictat de ce que je devrais faire, mais plutôt sous celui de ce que j'ai envie de faire. Alors là, aujourd'hui, au moment où les guerres se multiplient, où notre climat fout le camp, où des leaders de grandes nations devraient sérieusement transmettre le pouvoir, là, en ce moment, présent, n'est-il pas sage, en effet, de prendre un peu de temps pour soi, un peu de recul, si on le peut, et de réfléchir à ce qui est vraiment important et à la façon dont on souhaite y contribuer? Et si ce recul était l'étape préalable pour réussir la suite en évitant de tout bousiller parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive? Et s'il nous permettait d'appréhender un monde devenu éminemment complexe, anxiogène, mais dont la suite n'est pas encore écrite? Et si cette réflexion n'était pas seulement de la responsabilité de la femme qui la vit, mais aussi de nos institutions, de nos entreprises, de notre fonction publique? Peut-être que notre société au grand complet devrait y être conviée parce qu'après tout, c'est la moitié de notre population qui va passer par là. C'était « Donner du sens au temps qui reste », un texte de Dominique Anglade, paru le 12 décembre 2023 dans la presse.
À quand une place en télé et au cinéma pour les créatrices et créateurs handicapés? Un texte de Radio-Canada Info, paru le 8 janvier 2024 dans Radio-Canada Info. Le handicap, l'ingrédient secret d'une recette conduisant aux Oscars? Hollywood regorge d'exemples de films qui braquent les projecteurs sur des personnages handicapés. De Forrest Gump, 1994, à Coda, Le cœur à la musique, 2021, en passant par Le discours du roi, 2010, ou La forme de l'eau, 2017, plusieurs de ses œuvres ont même remporté la palme du film de l'année. Ce phénomène s'explique aussi par un intérêt de la part des interprètes pour des rôles de personnages handicapés, selon le critique et journaliste spécialisé en cinéma, Michel Coulombe. Depuis longtemps, il y a un intérêt particulier de la part des acteurs pour le défi que cela représente, parce que de jouer quelqu'un qui est si différent de soi, ça demande un engagement, explique-t-il. C'est stimulant. Chez tous les acteurs qui l'ont fait, je vois aussi un immense respect. On veut être à la hauteur et représenter ces personnages de manière respectueuse. Comment on fait, comment on bouge, comment le faire sans caricaturer. Cet engagement-là fait que ça conduit parfois aux Oscars. Il cite l'exemple de Marlon Brando dans « C'était des hommes » 1950, qui a passé un mois dans un hôpital pour se préparer à son rôle d'un vétéran de guerre paraplégique. Ou encore celui de Daniel Day-Lewis, oscarisé meilleur acteur pour son travail dans « My Left Foot », l'histoire de Christy Brown, 1989. C'est un acteur qui n'a rien fait simplement sur le plateau, explique Michel Coulombe. Son personnage n'a la maîtrise que de son pied gauche et il a donc décidé qu'on ne pourrait pas lui demander de se déplacer normalement ou même de manger normalement. On ne pouvait pas s'adresser à lui en utilisant le nom Daniel, il fallait l'appeler Christy. Pour en apprendre plus sur le traitement réservé au handicap dans la culture, vous pouvez écouter la carte blanche à Kevin Breton sur Ici Première le dimanche 7 janvier à 20h. L'émission est déjà disponible sur Radio-Canada Audio. Plus récemment, Eddie Redmayne a fait appel à une chorégraphe pour reproduire fidèlement les gestes et mouvements du physicien Stephen Hawking. Atteint de sclérose latérale amyotrophique, dans le film biographique « Une merveilleuse histoire du temps » 2014. Michel Coulombe croit que la présence de ces personnages à l'écran a un effet sur les spectateurs et spectatrices et sur leur perception des personnes handicapées. Le regard que l'on pose sur des personnes en fauteuil roulant, par exemple, est différent. Quand il y a eu le film « Gabriel » au Québec, il y a eu un travail en harmonie entre personnes avec et sans déficience intellectuelle qui a ouvert les yeux de bien des gens. Le cinéma a souvent cet effet-là. Projecteur ou obscurité? Si le handicap est au cœur de plusieurs intrigues hollywoodiennes, il est plutôt rare de voir des personnages handicapés en périphérie, présents à l'écran seulement pour un rôle secondaire qui n'a rien à voir avec leurs conditions physiques, par exemple. Le handicap, c'est un sujet ou rien. On parle de ça ou on ne les voit pas. Les afrodescendants ont longtemps été montrés au cinéma comme étant des personnes conscientes de leur situation, se battant face à la ségrégation, aux problèmes de société. Alors que dans la vie, il y a aussi des médecins afrodescendants, des voisins ou des voisines, et on a mis du temps à le voir. Pour les gens avec un handicap, c'est un peu la même chose, ajoute M. Coulombe. Marie-Hélène Lebeau-Tachereau, scénariste de KOTV, a créé plusieurs séries pour la télévision québécoise ces dernières années. Virage, Conseil de famille et, plus récemment, Le Pacte. Dans la deuxième saison de cette dernière émission jeunesse, présentée à Télé-Québec, un personnage handicapé fait son apparition dans l'école où se déroule l'intrigue. Romane est une élève comme une autre, nouvelle dans l'école, qui vient avec des enjeux propres à cela. Elle rêve d'être journaliste, comme son père, que l'on devine célèbre. Elle veut se prouver. Puis, il y a toute une histoire qui se développe de manière assez intéressante entre elle et un des personnages principaux, explique la scénariste. Elle est en fauteuil roulant, mais cela est accessoire à l'histoire. Elle sensibilise au fait que l'école n'est pas très accessible, ça fait partie d'elle, mais ce n'est pas sa quête. L'ajout de personnages handicapés ne fait que bonifier les œuvres, selon Marie-Hélène Lebeau-Tachereau. Ça peut créer de nouvelles interactions, comme la première fois où Romane rencontre un des personnages principaux et qu'il va être très maladroit. Ou encore, Romane, qui veut avoir un moment d'intimité avec son premier chum, alors que l'appartement de ce dernier n'est pas accessible. Ça contribue à créer des histoires originales, authentiques et différentes. Pour en voir plus, la scénariste croit qu'il faut laisser la chance à des créateurs et à des créatrices en situation de handicap de s'exprimer et d'écrire leur histoire. C'est aussi pour cela qu'elle inclut parfois des personnes handicapées dans certaines de ses chambres d'auteurs. Les créateurs me disent souvent « soit on est invisible, soit on est des super-héros ». Et ça ne convient pas. Ni l'un ni l'autre. Michel Coulombe relève quant à lui le cas de l'homme d'affaires français Philippe Pozzo, l'auteur du livre qui a donné naissance au film Intouchable. Il a publié un livre qui raconte sa vie. On lui a offert plusieurs fois d'en faire un film. Il a dit « Vous voulez en faire un drame, Faire de ma vie quelque chose de misérable, c'est non. Je n'ai pas besoin de vous. » Et il a finalement accepté un projet de comédie en disant que ça lui convenait mieux. Et ça donne un bon résultat. Marie-Hélène Lebeau-Tachereau croit aussi que l'arrivée d'actrices et d'acteurs handicapés pourrait donner le goût à des scénaristes de leur donner des rôles de personnages qui ne sont pas nécessairement pensés pour être handicapés. Des occasions à saisir. Parmi les films mentionnés plus haut, un seul mettait en vedette des interprètes vivant avec un handicap, soit Coda, Le cœur à la musique. Il s'agit d'une reprise américaine du succès français La famille Bélier, sortie en 2014. Dans la version française, des interprètes non handicapés ont été sélectionnés pour jouer des personnes sourdes et on a dû leur apprendre la langue des signes, ce qui a valu à la production certaines critiques. Au Québec, la série Le temps des framboises met en scène le personnage de William, qui est sourd, et qui est joué par un acteur handicapé, Xavier Chalifoux. Le réalisateur Guillaume Lonergan a travaillé avec lui à la création de la saison 2, qui sera diffusée à TVA à la fin de l'hiver 2024. Il est d'avis que la présence d'un personnage réellement handicapé est venue enrichir la production. La chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations de l'UQAM compile des données sur la représentation et le handicap. Entre les décennies 1980-1990 et 2010-2020, on note une augmentation de 200% du nombre de personnages handicapés dans les œuvres au petit et au grand écran. Pour les films de fiction, entre 1980 et 2020, le tiers des personnages handicapés sont joués par des personnes ayant déclaré être en situation de handicap, être sourdes ou neurodivergentes. Dans la majorité des cas, le personnage handicapé joue le rôle d'allié ou d'adjuvant, celui qui aide le personnage principal ou secondaire. Will est un ado comme les autres. C'est le petit frère d'une famille dont la mère hérite d'une terre, explique Guillaume Lonergan. Il voit son monde se transformer. C'est un garçon brillant à l'école, destiné à autre chose que de travailler à la ferme. Le fait qu'il soit sourd, c'est juste un détail. Sa surdité ajoute un brin de complexité, mais aussi beaucoup d'authenticité, ajoute le scénariste. On travaille avec un interprète tout le temps. On m'avait prévenu qu'il y aurait un ajustement, que ce serait difficile. Mais dès le jour 2 ou le jour 3, je m'étais adaptée. Xavier était très bon aussi. Une de mes plus belles expériences de travail avec un acteur, explique encore Guillaume Lonergan. Une des bonnes choses des dernières années, c'est qu'on se force, par exemple, pour donner le rôle à un sourd et bénéficier de son authenticité. Oui, ça veut dire qu'il y a des défis. Mais en très peu de temps, on réalise tout ce que ça amène et le résultat est extraordinaire. Faire sa place. Xavier Chalifoux n'est pas le seul. Des acteurs et des actrices en situation de handicap tentent de faire leur place sur la scène culturelle et médiatique québécoise depuis plusieurs années. Alexa Carl Hébert est une comédienne en fauteuil roulant. Elle a obtenu le rôle principal dans le long-métrage « Le jour où le dromadaire est parti », qui est toujours en production. Mais elle a dû mentir pour décrocher le rôle. Quand la réalisatrice m'a approchée pour me demander si j'avais de l'expérience, j'ai dit oui, alors que ce n'était pas tout à fait vrai. On a ensuite fait une vidéo corporative ensemble, ce qui a été mon audition. Et une fois que le tournage a commencé, c'est là que je lui ai avoué. « Mais ça a très bien marché », explique-t-elle. Le rôle n'avait pas été réfléchi à la base pour une actrice handicapée. C'est l'histoire d'une artiste qui tombe enceinte de son meilleur ami. Le handicap ajoute une complexité pas nécessairement prévue à la base à la question de la maternité. C'était important que le personnage ne soit pas centré sur le handicap. C'est une personne normale, mais en fauteuil roulant. Roxane Charest-Landry termine sa formation à l'école Les Muses, un centre de formation professionnelle pour les personnes qui, comme elle, présentent une déficience intellectuelle. Elle aimerait qu'on la convoque plus souvent pour des auditions qui n'ont pas de lien avec son handicap. Certains se mettent en tête qu'on n'est pas capable de faire tel rôle, d'apprendre tel texte, sans nous connaître. On est capable de vous surprendre, d'y aller à fond. Venez nous voir travailler, plaide-t-elle. On est capable d'émouvoir, de se livrer à des rôles plus intimes, d'aller dans la profondeur. J'espère que les préjugés vont tomber. On est tanné de se faire donner des rôles faciles. On peut aller en complexité. Je dirais oui à n'importe quel rôle, dit pour sa part Alexa Carl Hébert. C'est juste de nous laisser au moins l'opportunité. Je devrais être traitée de la même façon pour les auditions, que je sois en fauteuil roulant ou non. Pas d'effet Gabriel, selon Geneviève Bouchard. Il y a 10 ans, le film Gabriel était sélectionné pour représenter le Canada aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. On aurait pu croire que l'œuvre, qui a révélé les talents de l'actrice Gabrielle Marion Rivard, aurait marqué un tournant dans l'inclusion des personnes handicapées. Mais non, il n'y a pas eu d'effet Gabriel, constate Geneviève Bouchard, comédienne et responsable de la transition vers la vie professionnelle et des projets d'inclusion chez Les Muses. Gabrielle a décroché le prix Écran canadien pour son interprétation. Pourtant, elle a été boudée au Jutras, comme on appelait les prix Iris à l'époque. Elle n'était même pas en lice. Toutes ses collègues étaient en nomination, mais pas elle. L'actrice n'a peut-être pas reçu la reconnaissance qu'elle méritait, selon elle. Au Québec, les mentalités peinent à se mettre au goût du jour. Il y a un travail de sensibilisation à faire, beaucoup. Il y a une plus grande ouverture ailleurs. C'était « À quand une place en télé et au cinéma pour les créatrices et créateurs handicapés? » un texte de Radio-Canada Info, paru le 8 janvier 2024 dans Radio-Canada Info.